Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Et pour cet été, je vous propose de feuilleter quelques bons livres bienfaisants en psychologie, psychanalyse et développement personnel. Des ouvrages qui deviendront peut-être des boussoles pour mieux vous comprendre. Des GPS existentiels qui permettent de se retrouver dans l'océan sans phare ni balise qui caractérise bien souvent notre époque. Des livres qui deviendront peut-être des amis fidèles en cas de gros temps dans votre vie. Nous verrons également quelles sont les grandes tendances dans la production éditoriale en psychologie depuis quelques années. Mes complices cet après-midi, Marie-Laure Zonshine et Christophe André. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Christilla Pélédouelle. Vous avez failli m'envoyer une baffe parce que je vous appelais Christilla.
Presque, mais comme je suis loin, vous ne risquiez pas grand-chose.
Chef de la rubrique livres à Psychologie Magazine, vous avez notamment publié chez Marabout ces livres qui font du bien, c'est ça? C'est le titre exact?
Qui font du bien.
Voilà. Bonjour Pascal 5.
Bonjour, c'est Pascal 5.
5, ouais, je sais. Ça s'écrit S-E-N-K, mais on prononce 5. Journaliste spécialisé en psychologie, vous venez de publier chez Larousse et tu verras ta vie autrement. Sans chronique psy pour poser un nouveau regard sur le monde, les autres et soi. Bonjour Jean-François Marmion.
Bonjour Auxerre, bonjour Paris, bonjour la France.
Psychologue de formation, rédacteur en chef de la revue Le Cercle Psy, vous venez de publier aux éditions Sciences Humaines une histoire universelle de la connerie et vous êtes donc en duplex d'Auxerre. Alors, voilà. Pascal Schenck, la psychologie s'intéresse au fondement même de l'être humain, psychisme, cœur, identité. Vous écrivez en introduction de votre livre qu'avec la psychologie, pas de détour, il s'agit de décrypter ce qui nous meut et génère nos comportements, quand bien même nous serions incapables de les comprendre. Sacré projet.
Oui, c'était la grande révolution quand les premiers livres de développement personnel et de psychologie sont arrivés sur le marché français, on va dire en 90, pour se rajeunir un peu. C'était une révolution parce qu'on avait des livres savants, on avait des manuels de psychologie universitaire et tout à coup arrivaient des livres qui nous proposaient de vivre, de nous regarder vivre, de nous observer, pas comme des entomologistes, mais comme des êtres humains, aux prises avec des parties de nous qui sont encore inconnues, et de finalement se dire, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi, alors que j'aime telle personne, je lui parle mal? Pourquoi j'auto-sabote systématiquement tous mes projets? Pourquoi? Et ça a été la révolution de la psychologie populaire, et c'est une aventure qui ne s'est pas arrêtée depuis.
Jean-François Marmion, l'une des missions de la psychologie grand public, c'est d'aider les lecteurs à renouer, à retrouver un équilibre intérieur?
Oui, je crois qu'il y a deux grands axes. Il y a des livres qui font qu'on se sent bien, qu'on se sent pousser des ailes, qui nous remettent du baume au cœur et de l'énergie. Et puis il y a des livres qui vous déstabilisent. Des livres qui font qu'on se dit, tiens, j'avais jamais pensé à ça. Et si j'osais faire ça? Ou alors c'est quelque chose qui nous trotte dans la tête et le livre nous donne l'autorisation de faire quelque chose, en quelque sorte. Donc, on sort légèrement de sa sorte de sa zone de confort. Pas trop non plus. Mais disons qu'on a des ailes, mais ça nous donne une direction à laquelle on n'avait pas forcément pensé auparavant.
Christelle Pélédouelle.
Et je pense que c'est cette révolution populaire, hein, parce que c'est vraiment le cas, parce que ces livres se sont répandus d'une manière absolument exponentielle partout. Tous les journaux, tous les médias s'y sont mis. Hein. Psychologie a été vraiment un des premiers titres, sinon le premier titre à lancer cette grande... Enfin, je ne sais pas si on veut parler de mode, d'ailleurs. Il y a une part de mode, mais il y a aussi vraiment un mouvement de fond, d'intérêt pour ce qui se passe, en effet, comme disait Pascal, dans notre cerveau, ce à quoi s'attache Christophe depuis toujours. C'est vraiment, en effet, je pense que c'est une révolution. C'est une révolution, mais qui marche de pair aussi avec le développement de l'individualisme. Donc, il y a deux faces, hein, je pense, dans ce mouvement. Une face très intéressante de recherche, de compréhension de soi, des mouvements intérieurs profonds, psychologiques, etc. Et puis, une autre face qui est celle peut-être aussi d'un repli sur son petit nombril et un peu d'oubli de la nécessité de la solidarité, du collectif, de l'intérêt général. Voilà, je pense qu'il y a ces deux faces-là. Alors certains auteurs parviennent à joindre les deux, mais pas tous. Et il y a quand même je vais mettre une petite note dissonante, hein, mais j'aime bien ça, comme vous savez, Ali. Le développement absolument exponentiel de ce que j'appelle le DPD, c'est-à-dire le développement personnel débile sur tous les rayonnages, est une espèce de pollution presque, hein, parce que c'est très perturbant pour les lecteurs qui ne savent plus littéralement, ceux qui ne sont pas des professionnels de cette profession, ne savent plus où se tourner, ce qui est de valeur et ce qui est absolument inintéressant au mieux ou néfaste au pire. Parce qu'il y a tout de même des livres de développement personnel, dit développement personnel, qui sont vraiment néfastes.
Quelle est d'ailleurs la différence entre un livre de psychologie et un livre de développement personnel, Pascal Schunck?
Moi, je dirais que la psychologie s'appuie sur la science psychologique, sur vraiment des grandes écoles qui sont définies, l'école jungienne, la psychanalyse, les neurosciences. Donc vraiment, elle s'appuie sur un corpus théorique. Alors que le développement personnel, qui a créé son corpus théorique finalement depuis 1990, s'appuyait sur l'expérience de ses fondateurs, vraiment uniquement, quoi. On peut dire qu'il y a quelques noms comme Carl Rogers, comme Abraham Maslow, qui ont nourri le développement personnel.
Oui, mais
le développement personnel, c'était l'expérience de quelques auteurs qui se sont dit, voilà comment je vis, comment je peux vivre mieux et qu'est-ce que je peux transmettre aux gens qui traversent la même chose que moi. Et je crois que c'est la grande différence.
Christophe André, quelle est votre ambition secrète quand vous publiez un livre de psychologie grand public?
Ben, c'est d'aider les lectrices et les lecteurs, évidemment. C'est d'apporter une aide à des personnes qui sont souvent isolées, qui sont dans l'embarras par rapport à leurs difficultés, qui ont l'impression qu'elles ne concernent qu'elles, qui souvent découvrent dans les livres que ça concerne en fait les humains en général. C'est de rassurer, c'est de montrer la voie des efforts possibles à entreprendre quand on se sentira prêt. En tout cas, parfois les gens lisent le livre dans un premier temps et puis ne démarrent le processus de transformation que des années après, quand les étoiles se sont alignées dans leur vie. Et puis après, concernant cette question, il y a les deux questions là qui viennent d'être soulevées par Christina et Pascal. La question des références scientifiques, moi c'est vrai que c'est une ligne de partage souvent entre la psychologie et le développement personnel. Normalement, en psychologie, on dispose quand même d'un nombre d'études suffisant pour les annexer à notre ouvrage, que les lecteurs puissent aller, ceux qui sont intéressés, qui comprennent l'anglais, etc., puissent aller chercher les références auxquelles on s'adosse. Le développement personnel, souvent, manque de ces références. Ça ne veut pas dire que les méthodes ne marchent pas, hein, mais il y a tout un tas d'approches, comme l'analyse transactionnelle, etc., dont on a beaucoup parlé à un moment, mais qui reposait sur quasiment aucune étude scientifique. Voilà. Ce qui ne veut pas dire, une fois de plus, ça ne puisse pas rendre service. Après, la question que soulevait Christina Pelledouelle, la qualité des livres, moi je suis plus prudent que vous, Christina, parce que pendant longtemps, j'ai eu un petit complexe de supériorité. Je me disais, ouais, bon, pas que moi, enfin, il y a ceux qui font des bons livres, ceux qui font des mauvais livres. Et puis finalement, en écoutant mes patients, en écoutant les lecteurs, je me suis aperçu que des bouquins que moi je considérais comme des livres pas terrible, quoi, pas très argumenté, pas très validé scientifiquement, leur avait fait un bien de dingue. Et au fond, je me suis dit, ce qui est important dans le livre, là, on n'est pas dans le jugement artistique, et encore que même celui-là peut être remis en question, c'est le service psychologique rendu. Quel service psychologique est rendu au lecteur? À condition que le livre ne véhicule pas d'idées fausses. Mais là encore, il y a eu tellement d'idées fausses qui ont été véhiculées, et puis qui sont peu à peu tombé en décrépitude, que c'est compliqué de porter des jugements.
Oui, mais ce que vous dites est vrai, absolument. La différence se fait entre ce qui, en gros, apporte quelque chose et ce qui n'apporte rien. Mais beaucoup, enfin oui, vraiment, beaucoup de ces livres sont vides en réalité.
Ou sont redondants, répètent les mêmes choses.
Ou sont vides, enfin il n'y a rien. Quoi. Ouais. On le lit et on a l'impression un peu comme je sais pas, comme une tisane qui n'aurait aucun goût, que, en fin de compte, il ne reste rien. C'est une espèce de, voilà. Je ne dis pas du tout que c'est le cas de tout le développement personnel. Attention, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il y a, dans ce mouvement, puisqu'en effet, la plupart des livres de développement personnel ne sont pas appuyés sur des travaux scientifiques et ne sont pas le fait de scientifiques eux-mêmes ou de professionnels, hein, sans être scientifiques. Simplement, c'est un peu n'importe qui peut écrire un livre de DP. Moi-même, j'en ai écrit un. Non, c'est pas vrai. C'était pas un livre de développement personnel. Mais c'est un peu ça quand même le problème. Et c'est vrai que c'est le bien qu'on en tire. Tout ça est très subjectif. Hein. C'est un peu comme les médecines naturelles.
Pascal Chen.
Moi, je dirais que pour tout livre, ce qui importe, c'est l'auteur. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un auteur, un bon livre de psychologie, un bon livre de développement personnel. C'est un livre dans lequel vous sentez qu'il y a une pensée.
Eh oui.
Unique.
Une voix.
Une manière de la transmettre. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens qui s'intéressent au développement personnel, allez vers les bouquins fondateurs. Mmh. C'est-à-dire, plutôt que de relire le 8000e livre de psychologie positive qui
de
reprend
PNL.
Cette tisane, mmh. Allez lire directement Csikszentmihalyi ou Seligman, qui sont les pères fondateurs. Si vous vous intéressez à la psychologie humaniste, allez lire Maslow. Parce que là, vous aurez, j'allais dire, c'est comme un bouillon, vous aurez le fond du bouillon. Et vous n'aurez pas besoin de lire ces livres qui sont des répétitions des auteurs.
Dilué.
Jean-François Marmion, quel courant marquant, quel thème majeur ont émergé et se sont durablement installés dans le champ éditorial? Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du Cercle Psy.
Oui, alors je vois plusieurs courants. D'abord, Christophe André est bien placé pour recevoir la méditation. Il y a beaucoup de choses sur la méditation qui paraissent. Sur les pervers narcissiques aussi. Méfiez-vous des pervers, protégez-vous, vengez-vous, soyez plus malin qu'eux, etc. Puis il y a aussi des choses sur les surdoués, par exemple. Comme par hasard, tout le monde est surdoué maintenant. Surtout quand on se sent mal dans sa vie, c'est parce qu'on est trop intelligent pour ce monde. Je pense qu'il faut se méfier de ça aussi.
Il me semble que la psychologie neuroscientifique s'est fait une large place, Pascal Schenck.
Bah oui, on est passé dans une ère scientiste. Mmh. Et franchement, quand vous connaissez la clinique thérapeutique, ce que les auteurs ont écrit sur la clinique, ce qu'ils observaient, par exemple, moi souvent je souris parce que je lis une étude de psychologie expérimentale qui redit exactement la même chose. En le confirmant. C'est-à-dire, oui, les enfants qui ont confiance en eux sourient plus que ceux qui n'ont pas confiance en eux. Donc voilà, et ben, il se trouve que Françoise Dolto l'avait dit. C'est donc cette observation clinique qui, pour moi, fait vraiment le cœur d'un bon ouvrage de psychologie.
En ce qui concerne les grands courants, oui, alors la méditation, ça c'est évident, c'est massif, hein, ça a vraiment pris toute la place. Christophe en est en partie responsable. Pas que lui, mais beaucoup lui. On en mange à toutes les sauces, quoi, de la méditation. On finit même par avoir une petite saturation, moi j'avoue, qui reçoit... comme vous, Ali, la quasi-totalité de la production éditoriale. Quand je vois encore arriver un livre, et Marie-Laure, je pense, sera de mon avis, quand je vois encore arriver un bouquin sur la méditation, j'ai une espèce de « Oh non, pas encore ça, pas m'apprendre encore à méditer ». Mais ça, c'est parce que moi, je suis de ce côté-là. Probablement, il y a beaucoup de gens qui, évidemment, découvrent la méditation. Donc, très bien. Moi, je dirais qu'il y avait aussi, j'ai vu comme grande tendance surgir, et c'est corrélé à la méditation, le bonheur. La recherche du bonheur. Alors ça aussi, on en a eu de toutes les couleurs, de tous les goûts, des bons, des moins bons, des très mauvais. Et puis tout ce qui concerne la recherche de soi, l'individualisme, le comment être soi. Alors ça, comment être vraiment soi, comment être plus soi que soi et plus soi que les autres. Ça aussi, il y en a eu énormément, grande tendance. Et puis tout ce qui concerne la nature. La nature, nos relations avec les animaux, nos relations avec la nature. Ça, c'est un mouvement,
Je
pense, qui ne va pas s'arrêter. Évidemment, que c'est corrélé à nos inquiétudes, nos angoisses. Et puis, le féminisme qui est apparu et qui prend de plus en plus de place. Et tant mieux.
Jean-François Marmion.
Oui, tout ça est un marché, hein, ne l'oublions pas. Tout simplement, on donne aux lecteurs ce qu'ils ont envie de lire à l'instant T. Il y a des vogues comme ça. Et peu importe si on répète toujours la même chose, tant que les gens achètent, il y a une part de cynisme dans tout ça, il faut tout de même le dire. Le développement personnel, il y a vraiment à boire et à manger là-dedans, et parfois c'est très très indigeste. Ça nous fait du bien, mais comme par hasard, ça nous fait du bien de dire toujours la même chose aussi.
Christophe
et de nous dire, ah oui, ça me concerne, et puis un jour j'y arriverai.
Bon. Oui, oui, oui. On a le même médicament avec les laboratoires pharmaceutiques et les médicaments qu'on appelle les MeToo, les moi aussi. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu depuis 20-30 ans, les labos, finalement, au lieu d'investir dans des budgets de recherche pour trouver des nouvelles molécules, se copient les uns les autres et pondent trop souvent, pas toujours, mais trop souvent, des molécules qui sont la copie d'une molécule à succès. On a eu le Prozac, qui a été une grande percée dans les années 80, et puis tout un tas de petits cousins, petits frères, petits clones du Prozac qui se sont développés. Et c'est pareil pour les livres, évidemment. C'est la tentation pour les éditeurs est tellement grande de se dire la méditation marche, je vais chercher à
c'est
publier
un marché,
moi aussi,
mmh.
à inonder le marché de tout un tas de livres, et puis on verra bien ceux qui vont surnager. Donc c'est vrai que ça fonctionne malheureusement un peu comme ça.
Alexia Rivière, Claire Destacan, Julia Macarez et Clément Martin m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Bonne journée à l'écoute de France Inter.
Sans personne, Florence, Milan, s'il y a le temps, week-end, l'état, en bagnole de fortune, variette, mélo, à la radio, week-end, l'état.
Etienne Dao, Week-end à Rome.
Dans le grand livre du Yin King, qui est la loi du Tao, il est dit
« Grand bien vous fasse ».
Ça ne sert à rien de courir derrière ton cheval au galop, si c'est ton cheval, il reviendra.
Sur France Inter.
Je vous propose une sélection de quelques livres de psychologie, philosophie, psychanalyse et développement personnel. Question de Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle, à nos invités Pascal Schenck, Christy Lapelle-Edouelle et Jean-François Marmion.
Oui, je me suis amusée avant de venir à taper sur un célèbre site de vente à distance qui commence par un A, livre de développement personnel. Eh bien, 50 000 réponses, chers amis. Alors, comment je me débrouille avec tout ça, sans parler des rayonnages dans les magasins? Vous disiez, Pascal, qu'il fallait commencer par des auteurs fondateur. Christophe, vous étiez un petit peu plus souple en disant après tout, tant que ça fait du bien, allez-y. Je fais quoi, moi, là-dessus?
Eh bien, moi, Pascal, je partirais, autant être pragmatique, ne soyons pas hypocrites, on va partir de sa problématique. C'est-à-dire, vous avez des problèmes au boulot, et ben, vous choisissez un livre qui traite de s'épanouir au travail. Vous avez un problème de couple, vous choisissez des livres autour du couple. Il faut partir de sa demande. Et puis, c'est souvent une porte d'entrée, et après, on se rend compte, si le bouquin est bon, qui vous propose une transformation globale. C'est-à-dire qu'en fait, le développement personnel, c'est quand même sortir de la victimisation, essayer d'agir sur les leviers sur lesquels on peut agir encore dans sa vie personnelle. Et donc là, on peut aller vers des ouvrages d'auteurs plus génériques, j'allais dire, plus fondateurs.
Christy Lapelle-Edouelle.
Je suis évidemment d'accord avec Pascal. Hein. Revenons au grand classique. Mais en dehors de ça, savoir par quels moyens on peut arriver à faire le tri, je pense que c'est aussi le boulot number one des journalistes dans ce secteur-là. Alors évidemment, je parle pour ma chapelle, hein, parce que psychologie fait un gros travail sur cette question des livres et sur le choix. On en reçoit tellement qu'en effet, c'est pas simple et pas facile. Et puis, ici, dans cette émission, on fait aussi ce travail-là. Marie-Laure le fait aussi dans ses pages. Donc là, je crois qu'il y a quand même, la presse a un travail d'information et de tri absolument essentiel à faire. Et de ne pas se faire non plus l'écho de ce qui, alors, ne vaut pas la peine. Bon, ça, c'est, on va dire que ce sont les scories, hein, c'est à la marge. Mais des livres qui sont vraiment néfastes, quoi. Parce qu'il y en a. Il y en a, je le répète, évidemment, dans une production aussi énorme que celle que vient d'indiquer Marie-Laure, il y a forcément des coucous, des mauvais livres, au vrai sens du terme.
Jean-François Marmion, vous venez donc de publier un hors-série du Cercle Psy consacré à la bibliothèque idéale en psychologie. Et pour vous, l'un des grands livres de psychologie, c'est Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée de Daniel Kahneman, publié en 2011 et disponible chez Champ Flammarion. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002.
Oui, c'est l'un des trois psychologues à avoir eu un prix Nobel en économie, après Herbert Simon et puis avant Richard Thaler. Daniel Kahneman a un peu révolutionné la façon dont on se considère chacun, parce qu'on a l'impression tous qu'on est plus intelligent que la moyenne, qu'on réfléchit avant de parler, qu'on mène notre vie pas si mal que ça. Et lui, scientifiquement, depuis des décennies, il a montré que nous sommes sujets quotidiennement, en permanence, à ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire des erreurs de raisonnement. On traficote notre petite logique pour qu'elle colle à notre réalité, pour nous donner raison en permanence. Il a écrit là-dessus, Richard Thaler a écrit là-dessus aussi. Donc, c'est assez marrant de voir que les psychologues intéressent les jurys des prix Nobel à partir du moment où ils nous démontrent qu'on n'est pas si malin qu'on le croit. Ça, c'est une tendance très, très forte en psychologie aussi, les biais cognitifs.
Système 1, Système 2, c'est disponible en poche chez Champ.
Alors, j'ai pris l'exemple de Jean Genet parce qu'il illustre les théories neurologiques actuelles. On sait maintenant, grâce à la neuroimagerie, qu'un bébé abandonné, isolé affectivement au cours des premiers mois de sa vie, son cerveau est altéré. Et Jean Genet, probablement, a été intensément isolé au cours des premiers mois de sa vie. Quand il a été accueilli dans le Morvan par une très gentille famille d'accueil, les greniers n'ont pas pu le réchauffer. Et quand Jean Genet va à l'école, il a peur de tout, il a peur des autres, il a peur des enfants, il se cache derrière les livres et il devient bon élève. Mais sur le plan affectif, toute sa vie, il a été altéré parce que il avait été beaucoup trop isolé au cours des premiers mois de sa vie.
Boris Cyrulnik, chez Alibadou, en avril dernier, Chrissy Lapelle-Edouelle, vous avez donc choisi un livre de Boris Cyrulnik, La nuit, j'écrirai des soleils, aux éditions d'Yves Jacob.
Et oui, Boris Cyrulnik, qui a une production, certes, alors le reproche qu'on entend au sujet de Boris Cyrulnik, c'est il parle toujours de la même chose, voilà. Mais en réalité,
la résilience,
il creuse son sillon, il approfondit sa pensée. C'est ça qui est absolument formidable avec lui. Il approfondit sa pensée, il met sa pensée et sa réflexion à la portée de tout le monde, sans jamais descendre d'un cran de son art de l'écriture et de sa manière d'expliquer les choses. Il est extrêmement pédagogique et c'est formidable. D'ailleurs, le succès inaltérable de ses ouvrages est là pour le prouver, et aussi de sa présence, parce que j'ai la chance régulière de l'accompagner dans des conférences, des rencontres, comme Pascal a pu le faire aussi par le passé. Et c'est absolument extraordinaire de voir la chaleur humaine, l'écoute, la compréhension, la gentillesse qui se dégage de lui et qui est vraiment vécue et ressentie absolument par ses lecteurs et par ses admirateurs. Et alors, ce livre est un petit bijou. Alors, on s'est presque disputé, non, j'exagère, mais on a choisi le même livre, Pascal et moi, dans les livres importants, parce que ce livre ouvre des portes pas seulement sur la lecture, puisqu'il parle de l'importance de l'écriture et de la lecture dans le phénomène de résilience et comment ça peut nous aider lors de drames dans notre existence à reprendre le dessus, à reprendre le cours de notre vie. Mais ça s'adresse à tout le monde, également aux gens qui n'ont pas la capacité d'écrire ou pas l'envie d'écrire. Et c'est en ça qu'il touche un si grand public. C'est vraiment un auteur important, hein, je pense.
Oui, oui. Là, je dirais, on a du grand Cyrulnik.
Ouais,
parce
ouais.
que depuis 3-4 livres, il était plus tourné vers des problèmes de société, de psychothérapie, de la radicalisation, des choses comme ça. Et tout à coup, avec ce livre, il touche au cœur de l'humain, c'est-à-dire les mots. Vous savez combien je suis attachée à la poésie. Il nous montre comment nous pouvons transformer notre être et notre représentation du réel grâce aux mots. Quand on sait qu'actuellement, certains individus disposent de 600 mots de vocabulaire, alors qu'il y a 60 000 mots dans un dictionnaire général, il nous rappelle que c'est par l'acquisition de la langue, par la variété du vocabulaire, par la capacité à écrire, qu'on se reconstruit. Et ça, vraiment, c'est magnifique parce qu'il le vit de l'intérieur.
Jean-François Marmion.
Oui, c'est vrai qu'on dit souvent de Boris Cyrulnik qu'il écrit toujours un peu la même chose sur la résilience. C'est pas vrai. Il se risque parfois à des livres dont il sait que ça va pas se vendre et que ça va beaucoup moins intéresser le public. Notamment, il a publié un diptyque sur l'histoire de la psychiatrie, qui est catastrophique pour la psychiatrie, dira Pouli Rouge sur la discipline. Et il savait très bien que ça se vendrait pas beaucoup. Bon, ça s'est vendu un peu plus que ce qu'il imaginait. Mais voilà, il a participé à des groupes de chercheurs qu'il a animés pendant des années. Je le sais, j'étais dans les coulisses. Donc je sais bien qu'il a fait ça de façon désintéressée avec des gens qu'il a cherché à mettre en avant.
Ouais.
Donc le côté superstar cabotin, personnellement, moi aussi je le connais un petit peu, je suis pas d'accord.
La nuit j'écrirai des soleils, c'est de Boris Cyrulnik et c'est le conseil de nos experts. Pascal Schenck, dans votre panier, un livre que j'aime beaucoup, Apprendre à mourir, la méthode de Schopenhauer, du grand psychiatre américain Irvin Yalom. C'est disponible au livre de poche sous le titre La méthode Schopenhauer. Avant de nous raconter l'histoire de ce roman philosophique et psychologique, qui est Irvin Yalom ?
Irvin Yalom est un professeur de psychiatrie de l'université de Boston qui exerce depuis, 60 ans. Il a maintenant 89 ou 90 ans.
Enfin,
les dernières fois que je l'ai interviewé, j'ai vu qu'il était très âgé.
Oui.
Et c'est vraiment une personnalité majeure de la psychothérapie existentielle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui nous rappelle que si nous essayons de fuir les grandes données de notre condition humaine, à savoir le risque de solitude, la peur de l'isolement, la peur de la mort, la peur de la vieillesse, la maladie, on va aller de plus en plus mal. Et que c'est en fait en les confrontant et en travaillant dessus au jour le jour, en se confrontant à d'autres aussi dans des groupes psychothérapeutiques, qu'on peut vivre bien. Donc ce livre, Apprendre à mourir, c'est pour moi son plus abouti, son plus beau. Et puis il y a une raison aussi, c'est que quand il est arrivé dans les années 90, il parlait de la psychothérapie de groupe. Et vous savez, la psychothérapie de groupe n'a pas beaucoup d'attrait en France, ce qui est très dommage parce que c'est une psychothérapie puissante. Et dans ce livre, on comprend qu'est-ce qui se passe dans un groupe psychothérapeutique, c'est magnifique.
Christine Lapelle-Edouel.
Yalom est un des piliers, je pense. Et vraiment, on parlait des classiques, il faut absolument le lire. Et le lire d'autant plus que l'écriture est magnifique, que c'est romancé et absolument passionnant à lire. Enfin, on suit les personnages.
C'est parfois drôle
aussi. Il a le sens de l'humour vraiment très très fréquemment au cours des pages. Et je voudrais préciser une chose, rendre hommage à Pascal en deux secondes, parce que c'est Pascal qui a permis que Irvin Yalom soit devenu aussi célèbre en France. Alors, je peux raconter l'anecdote parce qu'elle vient de me le raconter et elle aura peut-être pas le courage de le redire. Mais Pascal travaillait à la rédaction de psychologie. Et un livre de Yalom qui a été publié par l'édition Galade et qui était le premier d'ailleurs, c'était la méthode.
La première traduction
de la méthode Schopenhauer était mis au rebut comme n'étant pas très intéressant, etc. Et Pascal s'en est saisi et à partir de là, elle a dit, après l'avoir lu, elle a dit à tout le monde, mais c'est un livre majeur, il faut absolument en parler. Elle en a parlé et le fait. Alors, on parle de la méthode Schopenhauer, mais là, le phénomène Yalom a commencé à décoller.
La méthode Schopenhauer à lire en poche, c'est chez Point, je crois.
Ouais.
Jean-François Marmion, vous avez choisi un classique du développement personnel, Devenir le meilleur de soi-même d'Abraham Maslow. C'est publié en 1954. C'est disponible chez Erol. Le titre initial était Motivation et personnalité. Pourquoi ce choix?
Parce que c'est le livre dans lequel il développe sa fameuse pyramide des besoins. Voilà, dont on parle encore 70 ans après, mais à juste titre, parce que c'est un bon modèle. En gros, en 5 minutes, vous avez les besoins physiologiques, les besoins les plus élémentaires qui doivent être satisfaits, c'est-à-dire avoir à manger et à boire, et puis avoir ensuite des besoins de sécurité qui doivent être satisfaits, etc. Plus on monte dans la pyramide, plus les besoins sont superflus. Au haut de la pyramide, vous avez l'accomplissement de soi. Alors, pour s'accomplir soi-même, il faut avant toute chose avoir résolu ses besoins alimentaires, puis ses besoins de sécurité, ses besoins d'appartenance, ses besoins d'estime de soi. Il faut avoir en quelque sorte le minimum vital et le minimum requis pour pouvoir espérer aller plus loin, en tout cas pour y aller plus confortablement. Par exemple, si vous êtes SDF, malheureusement, comme vos besoins de sécurité, vos besoins physiologiques seront difficilement pourvus, eh bien, il sera encore plus difficile pour vous d'assouvir les besoins supérieurs, c'est-à-dire notamment le besoin d'appartenance, d'intégration à un groupe. Vous serez plus facilement rejeté, hélas. Voilà. Donc, plus on va dans la pyramide, plus on va dans des besoins individuels, éthérés, transcendants. Il a même imaginé qu'on pouvait sortir de la pyramide avec une espèce d'accomplissement mystique. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore très présent. Alors évidemment, c'est pas hyper scientifique à la base, mais ça parle à chacun de nous et ça nous amène à réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous, vraiment essentiel. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien chez Erwin Yalom dont on parlait que chez d'autres classiques comme Alfred Adler ou Viktor Frankl, hein, qui nous interrogent sur le sens qu'on veut donner à notre vie et à ce qu'on traverse. Quel sens je donne à tout ça? C'est une interrogation qui est très présente dans des grandes problématiques aujourd'hui, comme la dépression ou comme le burn-out. Quel sens je donne au travail que je fais? Quel sens je donne à mes épreuves? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment une cause? Est-ce que ça peut servir à quelqu'un? On dit qu'on est en perte de valeur. Eh bien, le sens, c'est quelque chose qui traverse la psychologie humaniste, dont Abraham Maslow est un des fondateurs, et aussi pas mal de développement personnel de qualité aujourd'hui.
Devenir le meilleur de soi-même, d'Abraham Maslow, c'est publié chez Erol. Allez, il est temps de retrouver notre ami Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Chose vue.
Christophe André.
J'ai ressenti une petite bouffée de colère. Ça m'arrive pas très souvent, mais de temps en temps quand même. Un ami m'avait envoyé un mail où était écrit ceci. « Salut camarade, j'ai lu ce passage dans un bouquin et j'ai pensé que ça pouvait t'intéresser. » Voici le passage. « Règnent aujourd'hui sur le marché du livre ce qu'on appelle les feel-good books. Main dans la main avec leurs jumeaux maléfiques, les livres de développement personnel. Ces ouvrages agissent sur nous comme le fait un shot de sucre, activant puissamment le circuit neuronal de la récompense sans prémunir pour autant de la chute. » Une fois l'éblouissement du confort passé. Eh bien, ça m'a agacé, ce discours. Et voici ce que j'ai répondu à mon ami. « Merci, camarade. Je ne connais pas cette dame, ni son bouquin, mais ce passage me semble, en toute subjectivité, cuistre, con et gratuit. Quels sont ses arguments? A-t-elle lu toutes les études montrant l'intérêt et les bénéfices de ces livres qu'elle critique? Peut-elle imaginer un instant, du haut de sa prétention, qu'ils sont sans doute plus bienfaisants que les siens? Certes, il y a de la daube parmi les livres de psychologie et de développement personnel, mais autant que parmi les romans ou les essais en tout genre, faut-il pour autant jeter l'ensemble à la poubelle? Amitié et à bientôt. Bon, je sais, c'est con, c'est excessif et les propos tenus sous l'emprise de la colère, mais ça m'a fait du bien de me lâcher un peu. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Les livres d'aide, ça marche. Si l'on s'en tient seulement aux ouvrages de psychologie et de développement personnel, les études sur ce qu'on appelle la bibliothérapie, la thérapie par les livres, montrent que la lecture apporte un soutien et un soulagement réel, significatif et mesurable dans de nombreuses souffrances, comme les états dépressifs ou anxieux, les troubles du sommeil, la timidité, etc. Rien de miraculeux, juste une aide parmi d'autres, mais peu coûteuse et toujours disponible, et qui sera, nous disent ces mêmes études, encore plus nette chez les personnes suivies par ailleurs en psychothérapie, avec quelqu'un qui relaie leur message. D'ailleurs, d'autres recherches montrent aussi les bénéfices de la lecture en général. Les romans, par exemple, qui aident à cultiver son empathie et sa curiosité, qui permettent de voir le monde avec les yeux d'autrui. La poésie n'est pas en reste, qui nous aide à sa manière indirecte, intime, fraternelle, à réfléchir sur ce qu'est une vie humaine, avec ses joies et ses peines.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure.
Ah, c'est beau. Quand Apollinaire nous parle de la joie et de la peine qui s'entremêlent à chaque instant de notre vie, il ne nous donne pas de conseils, mais nous permet d'éprouver des sentiments de proximité, de fraternité, d'humanité commune et partagée, du réconfort face à nos souffrances. Et c'est l'orientation de la psychologie positive contemporaine qui n'en est plus au stade de la méthode Coué, qui dit « nous avons besoin du bonheur, non pas pour nous masquer le malheur, mais pour nous donner la force de l'affronter, de le traverser, de nous en remettre ». C'est pour cela qu'un livre ne nous fait pas du bien seulement parce qu'il nous réconforte, nous conseille, nous encourage. Des auteurs sombres peuvent aussi nous aider. Sioran, par exemple, dont les titres des ouvrages en disent long sur sa vision du monde, de l'inconvénient d'être né, syllogisme de l'amertume et autres pensées étranglées. Ces livres nous aident pourtant parce qu'ils nous montrent jusqu'à quelle forme de pire peut nous conduire le nihilisme et le goût du désespoir. Parce qu'ils nous débarrassent de nos illusions et de nos fausses espérances. Parce qu'ils nous ramènent au monde tel que nous devons l'habiter, à la fois imparfait et merveilleux, dur et tendre, etc. Les écrits de Sioran et des autres auteurs mélanographes comme Houellebecq n'annulent pas la nécessité et la possibilité du bonheur. Ils rappellent simplement que le seul bonheur qui vaille est celui qui admet l'existence et la possibilité du malheur et du tragique. Et nous avons sans doute besoin de ces deux familles de livres, ceux qui nous désolent et ceux qui nous consolent, pour construire une vision personnelle et réaliste de l'existence et des efforts à y conduire. Mais pour ma part, je me sens plus à l'aise du côté de ceux qui encouragent l'espoir, comme le poète Christian Bobin qui écrit « Dans la lumière du monde, j'ai toujours considéré qu'un écrivain avait plutôt des devoirs que des droits. Et un de ses devoirs est d'aider à vivre. Si j'ai mis de la lumière dans mes livres, c'est aussi pour ne pas assombrir l'autre, par courtoisie, envers celui qui me lit. Il m'a toujours semblé qu'il existait assez d'écrivains qui se font une spécialité d'assombrir et de dénigrer la vie. » Vous, cher Ali, quel est le dernier livre qui a changé quelque chose en vous et vous a fait grandir?
Régulièrement, il y a les cahiers de Sioran, cahiers de Sioran chez Gallimard, et puis les aphorismes sur la sagesse dans la vie de Schopenhauer que j'aime bien consulter.
Bon, c'est pas de rigolo, a priori.
C'est pas de rigolo, mais moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup. Écoutez Améthyste Kia qui interprétait Black Myself.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Ali Rebbi.
Et cet après-midi, quelques bons livres de psychologie et de développement personnel conseillés par Jean-François Marmion, Pascal Schenck et Christina Pelédouel. Bonjour Florence, bienvenue.
Bonjour.
Quel est votre choix, Florence?
Alors moi, j'ai choisi de parler des accords Toltec, voilà, que j'ai lu grâce à l'institut de ma fille qui a adopté la pratique des accords Toltec pour les disputes qu'il y avait entre les enfants. Et donc voilà, je m'y suis intéressée et j'ai commencé à le lire et ça a un peu transformé en effet ma vie.
Pourquoi? Expliquez-nous concrètement, Florence.
Alors concrètement, en fait, si vous voulez, ça a complètement changé ma perception des choses et j'ai compris qu'en fait, c'est plus sur le cinquième d'ailleurs accord Toltec qu'il y a une vérité et que après chacun a sa vérité. Et quand j'avais compris ça, eh bien, ça m'a permis d'appréhender les autres situations de façon totalement différente.
Les quatre accords Toltec, Priscilla Pelédouel de Psychologie Magazine, c'est l'un de vos livres de chevet?
Pas vraiment, non. Je l'ai lu, bien sûr. Lu et relu et re-relu, comme un certain nombre d'autres. Mais bon, je ne dirais pas que c'est un des livres les plus importants. Néanmoins, c'est un livre qui visiblement fait du bien à beaucoup de gens. Ce que je peux dire sur les accords Toltec, en étant critique, c'est que c'est un produit commercial absolument génial. L'auteur est formidable, il a créé sa petite entreprise, etc. Il a gagné énormément d'argent. Si c'est un livre qui fait du bien au lecteur, tant mieux, parce que c'est pas non plus une catastrophe, hein, mais simplement un livre qui reprend de grandes idées et de grands principes qu'on trouve absolument dans toutes les religions. Donc en fait, il suffit de revenir à la source hein, et de se replonger, par exemple, dans l'Évangile ou dans un certain nombre de... ou dans la Bible, pour ne citer que ces deux-là, mais on pourrait en citer bien d'autres, pour revenir à l'essentiel de ce qui, en effet, fonde la réalité de l'humain, de l'humanité et des relations entre les humains.
Christophe André.
Oui, c'est un livre qui nous met dans une situation inconfortable, parce que son histoire, évidemment, n'est pas très, très réjouissante. C'est vrai que c'est un produit marketing, c'est vrai que cette histoire de sagesse toltèque héritée au travers des siècles, elle est vraiment bidon. Le livre en lui-même délivre des messages de bon sens, très accessibles, très clairs, et a fait du bien à un nombre incroyable de gens. Voilà.
Merci beaucoup, Florence, de nous avoir appelé. Pascal Schenck, un classique qui peut nous aider à mieux nous comprendre en ce début d'année. C'est un classique, donc « Ma vie, souvenirs, rêves et pensées » de Carl Gustav Jung, l'un des pères fondateurs de la psychanalyse.
Oui, parce que je pense que dans les livres de psychologie, tout ce qui est autobiographie, journaux intimes, récits, sont des alliés incontournables aussi de l'introspection. Et celui-ci, eh bien, c'est un classique. C'est vrai que Jung a alors... c'est paru en 57, il a 83 ans. Et il revient sur sa vie, notamment sur le moment où il a quitté Freud, où il vit une rupture, donc on peut s'identifier comme toute personne ayant à vivre des ruptures, des trahisons, des nouveaux cycles à commencer. Et il raconte de l'intérieur la grande crise qu'il traverse et comment il est sorti de ça. C'est un ouvrage à ce jour inégalé sur l'introspection. Qu'est-ce que c'est rentrer en soi ? Oser regarder ses rêves, oser regarder les relations avec ses parents, oser se rappeler comment on était enfant, c'est majeur.
Christine Lapelédoine.
Ah oui, c'est un livre merveilleux, hein. C'est un livre fondateur, c'est un livre merveilleux qu'on peut lire par petits morceaux. L'écriture est absolument splendide, le développement de la pensée, tout ce qu'il dit sur les rêves, sur l'inconscient collectif, absolument remarquable et extraordinaire. Et en effet, on plonge dans son monde, parce que Jung avait un monde intérieur d'une richesse extraordinaire, comme en témoigne le livre rouge, qui est une pure splendeur, avec des illustrations de sa main, etc. Donc commencer à entrer dans la pensée de Jung, qui n'est pas facile, qui est même très 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 difficile, par ce biais-là, eh ben c'est formidable, et c'est en poche, et ça ne coûte rien, et la photo de couverture est magnifique.
Ma vie de Jung s'est publiée en poche chez Folio. Jean-François Marmion, un livre de développement personnel très très malin, « Mieux savoir bien vivre, 52 astuces mentales pour ne pas passer à côté de sa vie », c'est signé Rolf Dobelli, et c'est publié chez Solar.
Oui, alors moi j'aime beaucoup cet auteur-là. Il écrit des textes,
il est très malin.
Des textes très courts qu'on peut picorer dans l'ordre qu'on veut. Et voilà, il parle beaucoup de biais cognitifs, il parle beaucoup de stoïcisme qui revient énormément à la mode dans certains livres de développement personnel. Et moi, je trouve ça très malin en effet, parce qu'il arrive à faire la jonction entre la psychologie, un peu de marketing, un peu de management, un peu tout ça. Et c'est une vision, on va dire que c'est un moraliste. Pour moi, un moraliste, c'est pas quelqu'un qui donne des leçons de morale, hein, c'est quelqu'un qui décrit les mœurs de ses contemporains, c'est quelqu'un qui décrit notre fonctionnement à nous, qui met bas les masques. Et je le trouve très 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 bien, et pour moi il est représentatif d'une nouvelle génération d'auteurs de développement personnel qui frappe là où on les attend pas. Par exemple, il y a Mark Ronson qui a écrit L'art subtil de s'en foutre.
Très bien aussi.
Ou encore John Parkin, rien à foutre. Alors ça, c'est des gens qui vous expliquent qu'il faut se recentrer sur l'essentiel. C'est pas nouveau, hein, mais c'est très bien dit. Il faut se recentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Qui compte vraiment pour nous? Et c'est peut-être là quel bonheur. Et puis, il y a aussi d'autres auteurs comme Marianne Power, tiens. Oui. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Comment le développement personnel n'a pas changé ma vie ».
On l'avait reçu dans « Grand vous fasse ».
Ah ben voilà, elle explique que tous les mois... elle a essayé une nouvelle technique de développement personnel. Elle a changé d'auteur, elle a changé de technique, ça a vraiment changé sa vie, mais parfois pour le pire, elle s'est aperçue que finalement, c'était pas la peine de se développer.
Mieux savoir bien vivre de Rolf Dobelis et chez Solar, et Help Me de Marianne Power, c'est publié chez Stock. À propos de stoïcisme, Christophe André, vous revenez régulièrement aux pensées pour moi-même de l'empereur philosophe romain Marc Aurèle.
Ouais, c'est un de mes livres de chevet. Je l'ai en 5 ou 6 versions. Je trouve c'est très émouvant ce manuel qui est un pur produit de la philosophie stoïcienne, effectivement de l'Antiquité, parce que quand on le lit, on s'aperçoit que les préoccupations de cet homme qui vivait il y a près de 2 millénaires, qui était empereur. Ouais, on n'est pas tous empereurs de cet immense empire romain. A les mêmes préoccupations qu'un humain de 2020. C'est-à-dire, il se demande finalement comment conduire sa vie, comment être juste, comment savourer ce qui lui est donné au lieu de toujours courir après ce qu'il n'a pas. Et c'est extrêmement touchant de voir la permanence de nos aspirations les plus profondes. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard si la thérapie cognitive s'est beaucoup inspirée du stoïcisme, et si beaucoup de ces manuels de développement personnel, parfois sans reconnaître leur dette, reprennent ces principes.
Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, à lire en poche chez GF. Christy Lapelle-Edouelle, on prend un grand bol d'air frais avec le petit traité de philosophie naturelle de Kathleen Dinmore. Et ça vient de sortir aux éditions Gallmeister. Kathleen Dinmore, qui est à la fois naturaliste et philosophe.
Oui, c'est un merveilleux livre, un petit livre, mais délicieux vraiment. Alors c'est une réédition, hein, c'est une réédition en poche, il avait déjà été publié. Elle est en effet naturaliste, l'auteur est en effet naturaliste et philosophe. Elle a été professeure de philosophie de la nature, d'ailleurs. Et elle mêle ses observations. Elle se promène dans la nature. C'est d'ailleurs une grande randonneuse, découvreuse. Alors, elle ne part jamais en randonnée sans avoir tout son équipement pour pouvoir observer, en effet, les plantes, les animaux, etc. Elle mêle les observations naturalistes avec des réflexions philosophiques. Et tout ça dans des courts chapitres qui sont des petits bijoux d'écriture, d'intelligence et de sensibilité et d'humanité. Il y a un chapitre en particulier qui m'a vraiment bouleversée, dans lequel elle parle à la fois d'une promenade, d'une grande randonnée qu'elle fait avec son mari, du froid, ils dorment dehors, etc. Et des pensées qui l'agitent parce que sa fille est en train de quitter la maison. Et donc elle réfléchit sur la nécessité de ce détachement, de cette rupture qu'elle constate partout dans la nature. Les animaux laissent partir leurs petits, même parfois les mettent hors du nid, même la plupart du temps, et à sa propre difficulté à laisser partir son enfant, à ne pas se ronger d'inquiétude en pensant à sa fille qui est en voiture, qui est en train de traverser tous les États-Unis en voiture. C'est absolument magnifique. Ce sont des petits textes que je relis régulièrement, et c'est aux éditions Gallmeister, et je veux faire un petit coup de chapeau aux éditions Gallmeister au passage, qui est une petite maison d'édition qui est en train de devenir une grande, en tout cas par la qualité, et qui permet d'avoir accès à des grands textes américains, en particulier de ces fameux nature writing, comme on dit. Et voilà, il ne saurait être suffisamment remercié.
Qualité éditoriale, qualité de la traduction, qualité de l'objet livre également,
les éditions. Les couvertures, enfin tout est beau dans cette...
Les éditions Gallmeister. Merci à tous, merci Jean-François Marmion, Pascal Schenck et Christy Lapelle-Edouel. Toute la bibliographie est disponible sur le site et sur l'appli France Inter. Lundi, vous verrez ce que le vouvoiement et le tutoiement racontent sur nous.